de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Royaume-Uni soutient le plan d'action de l'application des lois forestières, le plan d'action de l'accord de FLEC de l'Indonésie par MFP ou le programme forestier multiparti. Le programme forestier multiparti ou MFP soutient l'Indonésie depuis 2000 pour renforcer la gouvernance forestière, lutter contre l'exploitation forestière illégale et augmenter les revenus des populations dépendantes des forêts. Ce programme est financé par le ministère britannique du Développement international. Lors d'une conférence de presse à Bakul Coffee, Jakarta, le responsable du programme de MFP, Tom Kick, a déclaré que le Royaume-Uni soutenait la gouvernance et le commerce, l'application des lois forestières, le plan d'action de l'accord avec l'Indonésie parce que la Grande-Bretagne est l'un des partenaires commerciaux les plus solides pour l'Indonésie dans le secteur du bois.
The UK and Indonesia signed an agreement that mirrors the same terms as the agreement between the EU and Indonesia.
L'accord final entre le Royaume-Uni et l'Indonésie reflète les mêmes dispositions que l'accord entre l'Union européenne et l'Indonésie. Et la raison pour laquelle nous le faisons est que le Royaume-Uni est très favorable au plan d'action de l'application de réglementation forestière, la gouvernance et les agences commerciaux, soutient la réforme du secteur du bois en Indonésie et nous voulons rester dans le cadre de cet accord et continuer à faire. Le Royaume-Uni est donc l'un des partenaires commerciaux les plus solides de l'Indonésie dans le secteur du bois. Cet accord montre que nous sommes toujours engagés, même si nos relations avec l'Union européenne ont changé. Tom a ajouté en 2016 le système de certification de légalité du bois indonésien est devenu le premier système au monde reconnu comme satisfaisant aux normes élevées fixées par le règlement de l'Union européenne sur le bois. Il s'agit d'une évolution importante à l'échelle mondiale dans la lutte contre la déforestation. Ce référentiel recueille les informations sur près de deux décennies de partenariat entre l'Indonésie et le Royaume-Uni pour soutenir les réformes de la gouvernance forestière et fournit un plan d'action pour l'application des lois forestières, la gouvernance et le commerce. Le président Joko Widodo invite l'Australie à continuer de lutter contre les valeurs de la démocratie et le respect des droits de l'homme, en saluant un siècle de partenariat Indonésie-Australie. Dans son discours devant les membres du Parlement australien à Canberra lundi, Le président Jokowi a proposé les ordres du jour prioritaires, à savoir les valeurs démocratiques, les droits de l'homme, la tolérance et le pluralisme. Le président Jokowi a également proposé de mettre fin à l'intolérance, la xénophobie, au radicalisme et au terrorisme. En tant que deux pays démocratiques et pluriels, Jokowi a demandé à l'Australie et à l'Indonésie de travailler dur, de collaborer pour lutter pour les valeurs démocratiques, la tolérance, pluralisme et empêcher le mode de la menace d'un choc des civilisations. Pendant environ 16 minutes, Jokowi a prononcé un discours en indonésien devant les deux camps du Parlement australien, à savoir la coalition du Parti libéral et de la coalition du Parti travailliste. La ville de Bandung a été choisie comme projet pilote pour le programme de ville d'avenir mondial du gouvernement britannique par l'ambassade britannique. La collaboration visait à améliorer le système de transport en commun afin de réduire le problème des embouteillages dans la ville de Bandung. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Owen Jenkins, a déclaré que le problème des transports en commun n'appartient pas seulement à la ville de Bandung, mais il peut être résolu par n'importe quelle ville du monde. Il a dit qu'il était heureux de pouvoir participer à la résolution du problème avec le gouvernement de la ville de Bandung. L'ambassadeur britannique en Indonésie à Bandung mardi s'est dit fier de partager son expérience et ses connaissances sur les transports au Royaume-Uni avec le gouvernement de la ville de Bandung lors de la formation précoce des transports publics en Indonésie. La ville d'avenir mondial se concentrait sur l'intégration des systèmes de transport de masse dans la ville de Bandung parce que le transport est une solution claire aux embouteillages qui est un problème principal dans la ville de Bandung. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Agence nationale de l'énergie nucléaire ou BATAN collabore avec les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou AIEA pour développer la recherche en technologie nucléaire pour la préservation du patrimoine culturel. Comme l'a déclaré le chef du centre d'application des isotopes et rayonnement de BATAN, Toti Cipto Sumirat, lors d'une réunion internationale intitulée « Exploiter la science et la technologie nucléaire pour la préservation et la conservation du patrimoine culturel » à Kuta Bali lundi. Toti a déclaré que la forme de coopération a été réalisée grâce à la participation de BATAN au projet de coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la région de l'Asie et du Pacifique. Cependant, le chef par intérim de la division industrielle et environnementale de BATAN, Sutrasno, a déclaré que le mécanisme d'utilisation de la technologie nucléaire pour la préservation du patrimoine culturel se fait avec des substances radioactives qui émettent des rayonnements avec certains pouvoirs. Le rayonnement émis par des substances radioactives qui peuvent tuer les microbes dans les objets anciens de sorte que ces objets ne subissent pas altération. Le gouvernement de Japonais Ridwan Kamil ouvrira un café en France. L'ouverture du café est une forme de coopération à courte ou à petite échelle dans le gouvernement de la province de Japonais et la France. Cela a été déclaré par Ridwan Kamil après avoir reçu mardi une visite de travail de l'ambassadeur d'Indonésie en France, Armanata Christiawa Nasir, à Bandung. Le café sera construit dans le sud de la France. Ridwan Kamil a déclaré qu'une réunion avec l'ambassadeur a eu lieu pour discuter des opportunités de coopération entre le gouvernement provincial de Java Occidental et la France dans divers secteurs, ayant du socio-culturel au commerce en passant par l'investissement. Selon lui, la plus grande opportunité est actuellement la coopération pour construire un hôpital. Ridwan a déclaré que le gouvernement provincial de Java Occidental avait besoin de 23 nouveaux hôpitaux. De plus, le gouvernement de la province de Java Ouest a également ouvert des opportunités de coopération avec la France en matière d'infrastructure et de projets de transport en donnant la priorité au concept objectif de développement durable. L'Indonésie n'a pas inclus dans la liste de 27 ressortissants étrangers en Chine qui sont infectés par le nouveau type coronavirus, comme déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, dans une déclaration écrite reçue mardi matin par l'agence de presse Antara. L'ambassade d'Indonésie à Pékin a déclaré que dans la province de Hubei, qui était la première épidémie du virus mortel, il y avait 7 citoyens indonésiens. Selon l'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun, dans certaines régions autres que la province de Hubei, il y a environ 1800 Indonésiens et aucun ne sont infectés par ce virus. Le ministère des Affaires étrangères et de la Paix, ou KKP, et le gouvernement provincial de Riau veulent faire de la résidence de Meranti comme zone nationale de développement du Vivano Blanc. Cela a été indiqué dans un protocole d'accord entre la Direction générale de l'Aquaculture, le gouvernement provincial de Riau et le gouvernement de la Régence de Meranti. Selamat Subiakto, le directeur général de l'Aquaculture, a déclaré que la Régence de Meranti est un archipel qui a le potentiel de développer une grande culture marine. Il a déclaré que le choix de Meranti en tant que centre de la zone nationale de culture de Vivano Blanc et plus d'avoir un grand potentiel de développement. Cela est également dû à l'engagement élevé du gouvernement local à accélérer le développement de la pêche dans la région. Slamet, dans une déclaration écrite reçue par Republika mardi, a déclaré qu'un accord conjoint avec la sélection de Vivano Blanc comme produit de qualité supérieure, parce que le Vivano Blanc a une large part de marché et pourrait être encouragé à générer des devises. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le président des Philippines montre son attitude ferme aux États-Unis ». Les relations entre les Philippines et les États-Unis entrent dans une nouvelle phase. Ce pays a mis fin à son adhésion à l'accord sur les forces en visite au VFA. C'est un accord militaire avec les États-Unis. La décision du président Rodrigo Duterte, les Philippines ont quitté l'accord sur les forces en visite, a été transmise au gouvernement américain. Le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Loxin, a confirmé qu'il avait été transmis et reçu par le chef adjoint de la mission diplomatique à l'ambassade des États-Unis à Manille. La raison de la résiliation de Manille de l'addition de VFA et que Washington a refusé de demander un visa pour Ronald de la Rosa, un allié politique de Duterte. L'accord de coopération militaire sur les forces en visite, ou VFA, en vigueur depuis 1998. À travers cette convention collective, les Philippines ont reçu des milliers de forces militaires américaines aux États-Unis pour la formation militaire et les opérations humanitaires. Les États-Unis ont répondu très attentivement aux démarches du président Duterte. Comme cité par l'agence de presse Associated Press, l'ambassade des États-Unis à Manille a déclaré la nécessité d'examiner cette question et attentivement. Selon les États-Unis, la décision de Duterte pourrait avoir des implications importantes pour les relations entre les deux pays qui sont bien déroulées jusqu'à présent. D'autre part, Washington n'a pas encore expliqué les relations de refus de la demande de visa de la personne proche du président Duterte. Ronald de la Rosa est l'ancien chef de la police nationale qui est maintenant sénateur. Pendant son mandat, le chef de police des Philippines ont mené une guerre contre les trafiquants de drogue. Pour cette raison, un certain nombre de responsables philippins soupçonné que son refus de visa était lié à la guerre contre la drogue qui avait été critiquée par les États-Unis. Washington, jusqu'à la fin de l'adhésion à la coopération militaire de l'accord sur les forces en visite par Duterte, n'a toujours pas expliqué la raison. Cependant, Washington est en train de considérer sérieusement de mettre fin à la coopération militaire du président Duterte. parce que les États-Unis considèrent leur présence militaire aux Philippines comme un contrepoids à la force militaire de la Chine dans la région de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont encore 180 jours avant de répondre à la décision du président Duterte. Fait intéressant, le président philippin a montré qu'il était contre les États-Unis, qui sont en fait un grand pays. Les Philippines et l'Amérique sont connues pour avoir une histoire de relations étroites jusqu'à présent. Mais si cela est nécessaire, il semble que les Philippines n'aient pas hésité à montrer leur ferme attitude envers les États-Unis. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la commémoration de la journée de la main rouge le 12 février. La journée de la main rouge est commémorée pour attirer l'attention du monde sur le sort des enfants soldats, à savoir les enfants forcés de devenir soldats dans les guerres et les conflits armés. Cette commémoration a lieu le 12 février de chaque année dans les conflits armés des dernières décennies qui se sont produits en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda, au Soudan, en Côte d'Ivoire, au Myanmar, aux Philippines, en Colombie et en Palestine, de nombreux enfants ont été impliqués en tant que soldats. Les estimations du nombre d'enfants impliqués dans des conflits armés dans le monde n'ont pas changé en 2006 et 2009. La réadaptation pour le retour des enfants soldats dans leur lieu d'origine n'est pas disponible. La journée de la main rouge a été lancée en 2002 lorsque le protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés a commencé à être mis en œuvre le 12 février 2002. Ce protocole a été adopté par l'Assemblée générale en mai 2001 et a maintenant été signé par 100 pays membres. L'autre information est sur le lancement de Vénéraan, 12 février 1961. Vénéraan, ou station interplanétaire automatique Vénus 1, est une sonde spatiale soviétique lancée vers la planète Vénus au tout début de l'ère spatiale. Vénéraan fait partie du programme Vénéra de l'Union soviétique. Le Vénéraan a été lancé le 12 février 1961. Cet avion a survolé Vénus lundi 9 mai. Mais le contact radio a été perdu avant son vol. Il n'y avait donc pas de données sur le retour de Vénéraan sur Terre. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'accident d'avion Colgan Air vol 3407. Le vol 3407 Continental Airlines est un vol de Continental Airlines assuré par la compagnie aérienne régionale Colgan Air entre l'aéroport international Newark Liberty dans New Jersey et l'aéroport international de Buffalo Niagara dans l'état de New York sur un turbopropulseur Bombardier Dash 8Q400 qui s'est écrasé le 10 février 2009 sur une habitation au nord-est de Clarence dans le banlieue de Buffalo, à environ 9 km de la piste d'aéroport de destination. L'accident a tué tous les passagers. 50 personnes ont été tuées, y compris 2 pilotes, 2 agents de bord, 45 passagers et une personne dans la maison. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Cerita sebelum kau lenyap. tak percaya ku tiba dalam petaka, kau pun menjauh sebelum ku mengerti.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Luca, chantée par Alika. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Tunisia, d'Indonésie pour le monde. Et voici donc Mon Indonésie. Chers auditeurs, c'est temps maintenant pour nous de vous présenter Mon Indonésie. Et pour le titre, le président Joko Widodo propose 4 programmes prioritaires pour le partenariat Indonésie-Australie. Lors d'une visite d'État en Australie, le président indonésien Joko Widodo a eu l'occasion de prononcer un discours devant un membre du Parlement australien à Canberra lundi le 10 février. Dans son discours, le président Jokowi a proposé 4 programmes prioritaires pour répondre à un cycle de partenariat entre le gouvernement indonésien et celui australien pour faire face à divers défis mondiaux. Le premier programme est de continuer à lutter pour les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la tolérance et du pluralisme. Mettre fin à l'intolérance, à la xénophobie, au radicalisme et au terrorisme. Selon le président, en tant que deux pays démocratiques et pluriels, l'Australie et l'Indonésie doivent travailler dur ensemble, lutter pour les valeurs démocratiques et la tolérance ainsi que la diversité et empêcher le monde de la menace d'un choc de civilisation. Le deuxième programme consiste à renforcer les principes d'une économie ouverte, libre et équitable au milieu du protectionnisme. Le président Jokowi estime qu'un système économique ouvert et équitable profitera à toutes les parties. C'est la raison pour laquelle il a salué l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, IACPA. Le troisième programme proposé est que l'Indonésie et l'Australie devraient devenir la fondation pour les partenaires de développement dans la région du Pacifique. En tant qu'archipel, les défis auxquels l'Indonésie et la région du Pacifique confrontés ne sont pas très différents. L'Indonésie et l'Australie doivent devenir des véritables amis pour les pays de la région du Pacifique, collaborer en tant que partenaire de développement, surmonter les effets du changement climatique, réduire la pauvreté et les inégalités sociales, créer de nouveaux centres de croissance économique dans la région du Pacifique. La quatrième proposition est la coopération en matière de conservation de la nature et de développement durable. Le reboisement des forêts et des rivières en amont, la prévention des incendies de forêts et des terres, la réduction des émissions de carbone et le développement des énergies renouvelables et d'autres technologies vertes. Outre de ces quatre priorités, selon le président Joko Widodo, la fondation du partenariat entre la Indonésie et l'Australie en 2050 est la jeune génération. Le président a proposé le concept au Sindovac, à savoir la tendance de la proximité d'Indonésie-Australie à la jeune génération, susciter l'amour des jeunes Australiens en Indonésie et vice-versa, l'amour des jeunes Indonésiens en Australie. Selon le président, l'investissement dans la jeune génération renforcera le partenariat entre l'Indonésie et l'Australie à l'avenir. Les deux pays disposent déjà d'un grand capital. À l'heure actuelle, 160 000 étudiants australiens étudient la langue indonésienne et 21 000 jeunes indonésiens étudient en Australie. Le président Jokowi est le 12e chef d'État à avoir eu l'occasion de prononcer le discours devant le Parlement dans l'histoire australienne et à être le premier à s'exprimer en 2020. Serge Ritter, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang tentang surga seakan-akan di sana berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Di Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Serge Luthor, c'est la deuxième chanson intitulée Aku Tenang, chantée par 420. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'énergie pour le monde. Bon, Serge Luthor, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel. Chers amis, bonsoir. Rencontrons-nous dans une rubrique quotidienne, le magazine culturel, ayant pour titre « Le village mégalithicum à l'ère millénaire ». L'ère mégalithique est une période de civilisation dans l'histoire du monde. Dans la partie orientale indonésie, il y a un hameau qui ressemble toujours à son image d'origine. Il s'appelle le hameau de Bena à Nusa Tenggara Est. Il a toujours un paysage mégalithique qui est bien entretenu. Le mot de Bena vient de la première tribu d'origine qui a vécu dans la région. Mais il y a beaucoup d'histoires sur l'origine de l'ancien hameau qui existe depuis 1200. Il est situé sur la pente du mont Ineri, atteignant 2245 mètres d'altitude, ou précisément dans le village de Tivuriwu, le district d'Aimere, à l'est de Nusa Tenggara. Ce village s'étend du nord au sud et est connu pour sa maison traditionnelle, Bena, et aussi la tradition de leurs ancêtres. Le petit hameau qui est occupé par la tribu d'origine de la région est déterminé comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Les structures de sol en terrasse sont également une nouvelle partie du hameau. Au bout du hameau, au sommet de l'escalier, il y a un gazebo qui peut être utilisé pour prière. L'existence au flanc de la montagne est caractéristique de l'ancienne communauté de fidèles montagnards comme lieu de Dieu. Selon les habitants du hameau, ils croient l'existence de Yeta, le dieu qui vit sur la montagne et protège leur hameau. De Bena se compose de 40 maisons qui s'entourent. Le hameau s'étend du nord au sud. La porte d'entrée du hameau est située au nord, alors qu'au sud, il y a un pic et une falaise abrupte. Généralement, le gagne-pain des hommes est l'agriculture. En plus de produire des grains, des tubercules et des haricots, ils plantent également du café et du noyer sur le mont Ineri. Pendant ce temps, les femmes travaillent avec diligence en tissant, dans lequel leurs produits sont vendus aux touristes ou envoyés à la ville de Bajawa. La distance du hameau de Bena à Bajawa, qui est la capitale de la résidence de Ngada, est d'environ 19 km. Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le transport terrestre. Même si la route est bonne, vous devez être un conducteur habillé, car la route est sinueuse et vallonnée. Le hameau de Bena est la destination touristique du hameau de Ngada. En fait, le hameau est souvent visité par des touristes étrangers d'Allemagne et d'Italie. Au milieu du hameau, il y a quelques bâtiments qui sont appelés Baga et Ngadu par la population locale. La forme du baga est similaire avec des petites cabanes sans habitants. Pendant ce temps, ngadu etang batimang avec ang toa ang fibre de palmier et ang poto de sorte que sa forme ressemble à un abri. Le hameau n'est pas encore touché par la technologie. Le bâtiment de Bena fonctionne non seulement comme résidence, mais aussi ayant une signification profonde avec la sagesse locale et à l'heure actuelle. Il est toujours pertinent d'être appliqué pour les personnes dans le maintien de l'environnement. La paix et le confort se feront sentir lorsque vous serez dans le hameau. Chers amis, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence, avec un autre sujet plus intéressant encore. Merci de votre attention. À demain.
Restau terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Itu mudah.
chers auditeurs, c'était la chanson de Rizky Febian, feat. Mika Tambayong, intitulé Berpisah Itu Mudah. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Keluhan di hotel, ou en français, les plaintes à l'hôtel. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Keluhan di hotel, ou en français, les plaintes à l'hôtel. Dans la chambre de l'hôtel, Kevin a parlé au commis de l'hôtel.
Coba masuk ke kamar mandi, Mas.
Baik, Pak. Permisi.
Lihat, saluran airnya mampet.
Oh, rusak ya? Saya panggil tukang leding sekarang.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire reliant au thème d'aujourd'hui. Kamar mandi. Kamar mandi, en français, la salle de bain. Kran air, kran air, en français, robinet d'eau. Rusak, rusak, en français, être cassé. Permisi, permisi, en français, excusez-moi. Tukang ledeng, tukang ledeng, en français, plombier. Masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. En français, entrer dans la salle de bain. Lihat, saluran airnya mampet. Lihat, saluran airnya mampet. En français, regardez, le canal d'eau est bloqué. Saya panggil tukang ledeng sekarang. Saya panggil tukang ledeng sekarang. En français, j'appelle le plombier maintenant. Pendant votre séjour à l'hôtel, vous pourriez rencontrer des problèmes. Les mots que vous pourriez utiliser pour déposer une plainte incluent rusak ou cassé, tidak menyala ou éteint, et belum dirapikan ou pas encore rangé. Écoutons les exemples de plaintes suivantes. AC tidak menyala. AC tidak menyala. En français, le climatiseur ne s'allume pas. Remote televisi rusak. Remote televisi rusak. En français, la télécommande du téléviseur est cassée. Kamar saya belum dirapikan. Kamar saya belum dirapikan. En français, ma chambre n'est pas encore rangée. Saya tidak dapat menggunakan internet. Saya tidak dapat menggunakan internet. En français, je ne peux pas utiliser l'internet. Dans une conversation entre Kevin et l'employeur d'hôtel, il a dit qu'il appellerait immédiatement tukang ledeng, soit un plombier. Dans le contexte de cette conversation, tukang ledeng ou plombier est une personne qui sait bien fabriquer et réparer des cours d'eau. En outre, le mot tukang est également utilisé pour les personnes qui vendent quelque chose, tels que tukang bakso ou vendeur de boulettes de viande et tukang nasi goreng ou vendeur d'orifries. En Indonésie, quand il croise quelqu'un d'autre, il dit généralement « je m'excuse ». Cependant, dans certaines régions, un peu de dire « excusez-moi ». Il a également plié son corps s'il dépassait une personne âgée. L'attitude de plier de corps est considérée comme une forme de respect pour les personnes plus âgées. Avant de terminer Apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus détailler, écoutons ensemble de la conversation encore une fois.
Coba masuk ke kamar mandi, Mas.
Baik, Pak. Permisi.
Lihat, saluran airnya mampet.
Oh, rusak ya? Saya panggil tukang leding sekarang.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et au revoir.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Melayang di atas awan tanpa terbang, ku tak jatuh.
Voice of Indonesia. Ku tak sangka rasa sudah membasahi pipi. Oh, terlalu cepat kau tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan dirimu. Tak dapat lagi ku maafkan salah.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Biar Ku Sendiri, chantée par Noah. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter magazine musical. Et cette fois, nous allons présenter une chanson de la province de Sud-Est de Sulawesi, intitulée Wulele Sangula. La chanson intitulée Wulele Sangula a été composée par H.M. Sanip. Cette chanson est typique de Tolaki, le plus grand groupe ethnique du Sud-Est de Sulawesi qui habite dans la ville de Kendari et la régence de Kolaka. Les paroles de la chanson Wulele Sangula ont également écrites en Tolaki. Les paroles contiennent un folklore sur un ange qui est descendu du ciel. L'ange est décrit comme beau et toujours exalté par le peuple de Tolaki. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée « Wulele Sangula » chantée par Sarah et Nita. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était la mission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.